Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre podcast sur les troubles du comportement alimentaire qu'on va appeler TCA, proposé ce semestre par les ERS, donc les étudiants relais santé. C'est un podcast qui se déroulera en deux parties, donc vous écouterez aujourd'hui la première partie. On est au studio de Graphite, situé dans les locaux de l'UTC, en présence de trois étudiantes qui ont accepté de témoigner pour nous au sujet des troubles du comportement alimentaire qu'elles ont vécu. Avant de commencer, on aimerait du coup vous remercier pour votre présence et votre implication et rappeler que c'est un podcast qui sera sous le signe de la bienveillance, notamment parce que c'est un exercice très courageux que de témoigner sur ce genre de sujet. Donc sans plus attendre, on peut commencer par une petite présentation rapide de chacune des personnes.
Le podcast Relais Santé.
Je commence. Moi, je m'appelle Lise, du coup, je suis à l'UTC depuis maintenant 4 ans, je suis en génie bio. Et du coup, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant 1 an et demi, 2 ans, au début donc, de l'UTC. Donc aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. J'estime être un petit peu sortie de ça. Enfin, j'espère, mais du coup, voilà, donc j'étais contente de témoigner pour peut-être aider des personnes qui sont actuellement en plein dedans.
Du coup, moi, je m'appelle Anaïs, je suis en TC1 et j'ai eu des troubles du comportement alimentaire de ma seconde. Pendant le Covid. Et maintenant, je pense que je suis sortie de ça depuis à peu près 1 ou 2 ans. Et je viens ici pour témoigner. Je pense que ouais, c'est très important, comme tu l'as dit, pour aider les personnes qui sont actuellement dans cette situation.
Alors, moi, c'est Natacha et je suis plus étudiante, mais j'ai été à l'UTC jusqu'en 2017 et du coup, j'ai aussi eu des troubles du comportement alimentaire, mais c'était avant mon arrivée à l'UTC, donc en classe préparatoire. Et ça a duré, pareil, 1 an et demi, 2 ans. J'estime aujourd'hui en être sortie, mais il y a toujours des phases de rechute de temps en temps. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et voilà, moi, je suis venue ici aussi pour en discuter et puis pour éventuellement aider des personnes qui sont dans le besoin de cette aide. Et je pense que c'est ce dont j'ai manqué à cette époque, c'était surtout des témoignages et de l'aide extérieure.
Ok, alors on va vous demander peut-être de détailler un petit peu de quels troubles vous avez été touchée. Donc peut-être on repart...
Alors moi j'ai été donc plutôt anorexique, donc au niveau de l'anorexie mentale, donc vraiment j'étais pas à un poids très très faible, mais bon quand même on parle d'anorexie, mais voilà.
Oui, c'est pas comme ça que ça se définit.
Mais c'était vraiment donc plutôt psychique, donc plutôt dans le mental, et par la suite j'ai donc eu des crises de boulimie, parce que souvent la restriction entraîne donc la compulsion, donc dans ce genre de troubles comportementaux, et du coup voilà, moi ça a été surtout ça, donc d'abord une phase d'anorexie, puis une phase donc d'anorexie boulimie. Et voilà, donc succomber de d'autres petits troubles, un petit peu de maniaquerie, enfin tout ce qu'on retrouve un petit peu avec l'anorexie, mais voilà, pour moi c'était ça.
Moi c'était aussi la même chose, du coup c'était aussi un trouble anorexique. Ça a été très très rapide, enfin je suis tombée directement à un poids très 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 bas, où j'ai eu une hospitalisation obligatoire, parce que j'étais en poids critique pour ma santé. Et ensuite, j'ai eu aussi des crises de boulimie pendant la remontée du poids. Et ça s'est fini.
Et pour ma part, c'était aussi de l'anorexie mentale. Comme tu as dit, Lise, avec tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Mais ça avait commencé assez doucement, parce que j'avais commencé un régime suite à une remarque que j'avais un peu mal prise. Et le régime, il s'est très vite tourné en anorexie, et puis tout contrôlé, enfin le contrôle de tout. Et du coup, là, j'ai perdu du poids très, très vite à ce moment-là. Et je suis passée à 2 doigts de l'hospitalisation aussi, mais le fait d'être sortie de mon cercle familial et d'être venue à l'UTC, justement, ça m'a un peu aidée. Enfin, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, petit à petit, ça s'est estompé. Voilà.
Ok. Peut-être que toi, du coup, le signe déclencheur qui t'a aidé à en sortir, c'est l'entrée à l'UTC. Lise, est-ce que toi, c'était l'inverse, du coup ? C'est l'entrée à l'UTC qui a provoqué ça ?
Ouais, alors en fait, moi, je suis entrée à l'UTC donc, en TC1, donc j'ai fait le TC. Est-ce que je parle un peu de... Ouais. de comment ça arrivait du coup. Donc en fait, quand j'ai commencé à arriver, enfin moi j'ai toujours été globalement une morphologie assez fine, j'ai jamais vraiment eu de problème avec la nourriture, j'étais plutôt assez intuitive. Et en fait, donc mes premiers mois à l'UTC, bah, la bière, tout ça, le rythme un petit peu étudiant, j'ai pris du poids, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, c'était vraiment, vraiment nul comme prise de poids. C'était assez léger. Et en fait, je m'en suis un petit peu rendu compte. Et moi aussi, je me suis pris donc quelques remarques en rentrant chez moi par ma mère qui m'avait dit que j'avais pris des cuisses. Et aussi, enfin, en fait, j'ai simplement réessayé des maillots de bain que j'avais. Et puis, ça m'a un petit peu renvoyé cette image que je m'étais pas... que je m'étais pas trop mise en face. Et ensuite, donc au début de mon, donc à la fin du premier semestre et donc du début de mon TC2, je me suis dit bon bah je vais me reprendre en main, je vais commencer un régime. Et du coup, c'est ça qui m'a plongée dedans, parce que tout de suite le régime s'est transformé en obsession assez rapidement, parce qu'en fait s'en est suivi le confinement. Et du coup, comme beaucoup de gens, j'ai commencé à faire beaucoup de sport et bien manger en fait pendant le confinement, et ça s'est très rapidement transformé en anorexie sans que je le sache vraiment. Donc oui, en tout cas.
Et ça, ta mère, elle s'en est un peu rendue compte, vu qu'elle t'avait, enfin, elle avait fait une remarque sur ton poids en premier lieu. Peut-être qu'elle remarque ce genre de choses, même si c'est peut-être infime ou, comme tu dis, très léger. Et là, elle t'a fait des remarques par rapport à ça ou...
Alors oui, donc en gros, quand j'ai commencé à faire beaucoup de sport, bien manger, ma mère, elle m'avait un petit peu pas alertée, mais bon, elle avait remarqué ça. Mais on n'a jamais été... Au début, on n'était pas très proches, en fait, au début de ça, par rapport à ça. Et du coup, elle ne me disait pas grand-chose, parce qu'en fait, je donnais tout en apparence que je gardais le contrôle. Pour elle, c'était bon, bah, je faisais du sport, je perdais du poids.
Et comme tu le dis toi-même, comme t'es pas passée à un poids...
Voilà, enfin, j'étais... genre, maintenant, quand je vois des photos, je me dis, waouh, j'étais maigre quand même. Mais à ce moment-là, on aurait pu se dire, bon, bah voilà.
C'est naturel, voilà. C'est son métabolisme. C'est ça.
Et j'avais pris quelques remarques ensuite. Enfin, moi, mais mon père, par exemple, m'avait dit, quand on était partis en vacances, bah, que j'avais quasiment plus de forme, que j'étais vraiment. Mais en fait, pour moi, c'était. Je voyais pas. En fait, vraiment, pour moi, c'était. J'avais un corps tout à fait normal, voire pas assez encore maigre, en fait. Donc finalement. Ouais. Mais maintenant, je pense qu'avec ce qui s'est passé, les remarques sont un peu moins... Avec ce qui s'est passé par la suite, ensuite la reprise de poids et tout, forcément, c'est pas toujours géré, donc ouais.
Okay. Peut-être que Anaïs, tu veux nous parler aussi de ce qui a été l'élément déclencheur pour toi, s'il y en a un, et si tu as réussi à l'identifier, parce que c'est pas toujours évident.
Du coup, moi, c'était plutôt mon entrée en seconde, où j'étais dans un nouveau lycée, où je connaissais personne. Et ça s'est très très mal passé au niveau social. J'ai eu beaucoup de conflits, de personnes ont des remarques sur mon physique, alors que il était à peu près, enfin je me considérais comme normale dans la norme. Et je les ai tout de suite pris très personnellement, parce que je connaissais personne. Du coup, je me rattachais forcément aux personnes, peu de personnes que je connaissais, qui étaient toxiques pour moi, mais je me rendais pas compte. Et ça arrivait du coup le confinement. Du coup, dans un sens, c'était un soulagement parce que je voyais plus.
Attends, du coup, tu étais en seconde, c'est ça, quand pendant le confinement. Le premier confinement.
C'est ça, j'étais en seconde. Du coup, ça a été un soulagement parce que je voyais plus ces personnes qui m'étaient toxiques. Mais d'un autre côté, c'était aussi l'opportunité de faire, comme tu l'as dit, j'ai fait énormément de sport, très très condensé. Et j'ai réduit mon alimentation en même temps, ce qui. Pas du tout cohérent. Et du coup, directement en 2 mois, j'ai perdu plus de 15 kilos. Je vivais encore avec mes parents.
Tes parents, ils ont eu un peu peur
Directement, ma mère surtout, elle ne comprenait pas, parce que j'ai jamais eu de problème de poids. Avec la nourriture, j'avais aucun problème avant. Surtout, elle ne comprenait pas pourquoi d'un coup, je restrictais autant mon alimentation. Et du coup, elle m'a amenée voir le médecin qui, il n'avait pas... Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal avec les médecins que j'ai vus, notamment le médecin généraliste, parce qu'il ne comprenait pas. Enfin, même moi, je ne comprenais pas, en fait, ce que je faisais. J'avais l'impression de... Quand j'y repense, que ce n'était pas moi-même, en fait. J'avais vraiment un contrôle sur moi-même que je ne comprenais pas. Et c'est encore plus dégradé jusqu'à peu près à l'été, après le confinement. Vraiment, j'étais à mon poids, je pense, le plus bas. Et du coup, c'est là que je suis allée voir le médecin, forcément hospitalisation, qui a duré une semaine, où j'étais sous perf, pas alimentée par la perf. Et c'est là que je pense que j'ai vraiment réalisé que c'était grave, et que surtout que les causes, c'était pas forcément l'alimentation pour ma part, j'avais pas peur de manger. C'était plus les repères, enfin les remarques des autres personnes qui me tournaient en boucle dans ma tête et qui étaient pas sur moi, mais quelque chose que je pouvais, le seul fait que je pouvais contrôler, c'était mon poids pour que ces remarques s'arrêtent, alors que finalement je voyais même plus ces personnes. Donc, c'était un petit peu pas cohérent, mais c'était le seul moyen. Enfin, ma pensée, c'est ce qui se faisait dans ma tête à ce moment-là. Et la reprise de poids était très très longue. Je pense que j'ai mis plus de 2 ans à revenir à un poids normal. Et aujourd'hui, c'est revenu totalement normal. Mais les remarques des gens, parce que du coup, les gens que j'avais vus avant et pendant cette phase-là, quand je revois les photos, je ressemble plus du tout. Enfin, c'était pas du tout la même personne que je suis actuellement. Et ça a été très très dur. Et j'ai eu du mal à trouver des gens qui comprennent ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est très très peu divulgué et c'est un sujet très très obscur. Et du coup, je pense qu'en parler, ça fait pas de mal. Et surtout avec des personnes de notre âge et pas des médecins que tu as l'impression qu'ils disent des trucs, mais tu veux pas forcément les entendre, tu comprends, enfin, ils te comprennent pas. Et voilà.
Et toi, Natacha?
Pour moi, l'élément déclencheur, donc, ça a été une phrase de mon père où on était à table justement et puis il m'a dit arrête de trop servir, t'as assez mangé. Et mine de rien, c'est hyper important de sensibiliser les gens sur les remarques qu'on peut faire parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité au niveau de la réception des remarques. Et du coup, pareil, j'avais jamais eu une corpulence ni fine ni forte, j'ai toujours été normale et du coup j'ai pris la pilule quand j'ai quitté le lycée. Et là, forcément, on prend du poids quand on prend la pilule, en général. Et donc, je savais que j'avais pris du poids, mais pas énorme non plus. Hein. Quand j'y repense, je me suis dit que c'était pas grand-chose. Et à cette remarque-là, je me suis dit, je vais entamer un régime, alors. Et au final, le régime, il y a moult et moult régimes qui sont assez connus. Mais ça reste tout dans le contrôle, dans le calcul, dans on pèse les aliments, on fait ci, on fait ça. Si on mange trop le midi, on fait un peu moins le soir. Enfin, c'est... Et au final, le régime, au début, ça se passait bien. Hein. Je perdais un petit peu comme n'importe quel régime. Et quand je suis arrivée en prépa, y a eu le stress, je pense, de la classe préparatoire, de la concurrence avec les gens, tout ça. Et donc, j'ai développé une sorte d'addiction pour le contrôle et ça s'est détourné vers la nourriture, du coup. Et là, je contrôlais tout. C'est-à-dire que même mon morceau de pain, je le pesais, quoi. Je ne pouvais pas manger plus de 30 grammes de pain. Enfin, c'était... Et au final, là, j'ai perdu beaucoup de poids très rapidement dans les 2 ans de prépa. Et j'ai perdu à peu près 25 kilos.
Et, sur une période de combien de temps? Enfin, pendant les 2 ans de prépa ou...
C'était plus pendant un an, j'ai perdu les 25 kilos, quoi. Et après, j'ai arrêté de perdre parce que je pense que je ne pouvais plus rien perdre. et voilà. Et par contre, moi, j'étais aussi encore chez mes parents et il y avait ma sœur aussi chez moi. Mais personne ne me faisait de remarques sur le fait que j'avais perdu du poids. Avec le recul, je pense que j'ai eu les remarques, mais que je ne les ai pas réceptionnées. Parce que, en plus de changer physiquement, on change vachement mentalement et on devient horrible. C'est-à-dire que la moindre contrariété, c'est on est énervé direct, on répond mal, on ferme la conversation directement. Et je pense que les gens avaient peur de moi et peur de m'en parler. Donc c'est assez compliqué d'avoir le déclic où on se dit « Ah, c'est peut-être moi le problème, quoi. »
Et ça n'a pas alerté aussi un peu tes profs de prépa? Parce que souvent, quand même, on est assez proche des profs qui nous encadrent pendant ces années-là. Et...
Ouais. C'est justement un prof de prépa qui m'a dit en fin de cours « Natacha, il faut qu'on parle, viens me voir à la fin du cours » et tout ça. Alors moi, je ne savais pas du tout de quoi il voulait me parler. Hein. Donc j'y vais. Et puis... Oui, je pensais que c'était ça. Hein. Et puis il me regarde, il me dit « Mais t'as pas perdu beaucoup de poids depuis que t'es arrivée ?» Et là, je me suis dit, ça m'a vraiment fait le déclic, quoi. Je me suis dit,
il fait la remarque.
Ouais, je me suis dit, si, carrément, quoi. Et je me suis dit, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin, il faut que je me reprenne en main, tout ça, parce qu'en plus, je voulais depuis le départ aller à l'UTC, donc je savais que j'allais partir à 600 km de chez moi, et qu'il fallait que je me reprenne en main avant d'habiter toute seule et d'être indépendante, quoi. Et si, effectivement, ouais, c'est la remarque de mon prof de prépa qui m'a fait le déclic retour, quoi.
Mais ce qui est assez. Ce qui est commun vos trois, sur vos trois expérience, si on peut appeler ça comme ça, c'est que c'est vraiment c'est la remarque d'une personne extérieure qui vous a mis une petite graine dans la tête qu'il y avait un souci, un souci auquel vous aviez même pas pensé avant, enfin qui n'était pas un souci pour vous, parce que prendre du poids n'est pas un souci en soi. Et donc c'est fou. Enfin, je suis d'accord avec vous qu'il faut sensibiliser sur le fait que le une seule petite remarque par une personne à un instant donné peut avoir un impact complètement dévastateur. Et à l'inverse, une seule remarque peut aussi faire comment dire
temporiser un petit peu
et entraîner un déclic dans l'autre sens.
Ouais, ben le problème des remarques des gens que sur le physique ou sur n'importe quoi d'autre, hein, c'est que la personne qui fait la remarque, elle se rend pas forcément compte que celle qui réceptionne, elle a pas forcément confiance en elle et du coup elle a pas la même sensibilité. Enfin, des fois ça peut être anodin, ça peut être une blague, ça peut être ou taquiner quelqu'un ou quoi. Mais quand les gens manquent, je pense que on a tout été pareil, on a énormément manqué de confiance en nous. Et c'est parfois très destructeur. Ouais.
Oui, c'est des caractéristiques qui reviennent souvent dans les cas d'anorexie. C'est le besoin de contrôle et le manque de, et le manque de confiance. C'est très court.
Est-ce que vous voulez peut-être parler aussi du coup de celles qui ont fait après de la boulimie ou de l'hyperphagie, parler de cette phase après, cette étape un peu dans la guérison finalement que vous avez eue?
Moi, du coup, alors, j'ai commencé à avoir des troubles par rapport donc, à l'anorexie, donc vraiment du contrôle et de la restriction, donc début du confinement et jusqu'à l'été. Et en fait, les crises de boulimie, on va dire que ça arrivait un petit peu de manière progressive. Au début, c'était juste, en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais plus faim et je mangeais beaucoup plus qu'il n'en fallait, parce que c'est souvent ça, en fait, on casse un petit peu le rassasiement et tout ce qui est contrôle interne, en fait, parce que du coup, notre cerveau veut simplement reprendre du poids par besoin physique, donc c'était comme ça. Et puis, en fait, ça s'est empiré de plus en plus, donc durant l'été. Et puis, donc, quand on est retourné à l'UTC, donc c'était le semestre d'A20, je pense, c'était encore, en fait, vachement Covid, on n'avait pas de cours, enfin, c'était un peu compliqué comme ça. Et là, la boulimie, elle s'installe. Et puis quand elle s'installe, c'est fini parce que c'est un cercle vicieux. La restriction, ça entraîne la compulsion. Et puis quand il y a la compulsion, généralement, il y a d'autres formes de restriction qui vont arriver derrière pour pouvoir compenser. Donc chez certaines personnes, c'est directement de la boulimie vomitive. Donc on va se faire vomir. Moi, au début, pas du tout. C'est juste que je jeûnais. Donc si je mangeais trop, j'estimais avoir trop mangé, ou alors que j'avais fait une crise de boulimie, j'allais juste pas manger après. Et puis jusqu'à ce que mon poids... Parce que moi, j'avais une anorexie qui était vraiment basée sur la prise, sur la balance. En fait, je me pesais tous les jours, plusieurs fois par jour, avant ma douche, après les repas. Enfin, c'était un enfer. Et du coup, tant que j'arrivais pas au poids de base, c'était une restriction. Sauf que généralement, les crises, elles s'installent. Et puis au final, toutes les semaines, on vient en faire une, parce qu'en fait, on met 3 jours à se débarrasser du poids en trop qu'on a, parce que nous, on pense que c'est du poids, mais en fait, c'est juste de la densité des aliments, quoi, tout simplement. Et moi, elle s'est fortement empirée quand j'ai commencé un petit peu ma recovery. Donc, quand j'ai commencé à voir quelqu'un et que je me suis dit qu'il fallait agir, c'est aussi le moment où la boulimie, elle s'est intensifiée. Elle est devenue de plus en plus vomitive. Enfin, elle s'est un petit peu intensifiée par rapport à ça. Et là, pendant ma reprise de poids, parce que j'ai repris beaucoup de poids pendant très peu de temps, parce que du coup, je mangeais pas normalement, mais je faisais plein de crises. Donc, en fait, j'ai pris plus de poids que ce que je faisais avant l'anorexie. Et ça a été, mais je pense que c'était la pire période de ma maladie pour moi, parce que j'avais l'impression d'avoir pris, d'être énorme, alors que c'était pas trop le cas. Mais bon, de toute façon, on a cette espèce de changement un peu de perception qui est là aussi. Et donc là, c'était les crises, elles s'accentuent, elles deviennent de plus en plus fréquentes. Et en fait, c'est très étrange comme trouble, parce que ça peut partir aussi vite que c'est venu. Moi, j'ai continué d'en faire jusqu'à tard, jusqu'à mon stage montée de neuf, qui était que, on va dire, il y a 2 semestres. Enfin, donc du coup, c'est assez récent, le fait que j'en fasse plus. Et en fait, quand on casse ce cercle vicieux de restriction et de compulsion, généralement, ça ouvre la porte à quelque chose d'un peu plus linéaire. Et on a donc moins ce phénomène de « je me prive et donc je compulse ». Quoi. Mais ça, c'est super compliqué d'en sortir. Et je pense sincèrement que de le faire tout seul, c'est compliqué. Enfin, il faut s'y atteler. Quoi, parce que même si on se dit « bon, j'arrête de me peser », généralement, la boulimie, elle est quand même là. Enfin, le cerveau, maintenant, il a pris le pli de faire des ressources, en fait, pour pouvoir combattre une nouvelle phase de restriction, que c'est très dur à s'en passer, quoi. Donc, souvent, elles ne sont pas acceptées. Et en plus, la boulimie, c'est quelque chose d'assez... c'est, comme tu disais, c'est assez obscur, parce que l'anorexie, les gens ont tendance à savoir ce que c'est, la boulimie un petit peu moins. Donc, et en plus, c'est un petit peu honteux pour la personne qui en fait, parce que bah, souvent, c'est fait en cachette, parce que bah, personne n'a vraiment envie de voir ça. Et puis, il y a beaucoup de culpabilité qui est engendrée par ces phases de boulimie, parce qu'on a l'impression, on a d'un coup, cette perte de contrôle. Alors, pour quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle tout le temps, bah, c'est terrible, quoi. Donc ça, c'était mon expérience avec les crises de boulimie qui sont arrivées un petit peu après, en fait, et qui, après, se sont intensifiées, puis retemporisées, et aujourd'hui, j'en fais plus du tout.
Du coup, pour ma part, la restriction, c'était aussi pendant le confinement, jusqu'à l'été où j'étais à mon poids le plus bas. Je pense qu'au tout début de ma guérison, j'ai pas du tout fait de crise de boulimie. Moi, c'est arrivé beaucoup plus tard, du coup, vers Noël, du coup, près de 8 mois après ma phase la plus basse. Quand j'ai commencé à vraiment reprendre du poids, parce qu'au départ, j'étais tellement à un poids minime que, en fait, ça se voyait même pas que je reprenais du poids, alors que je mangeais vraiment peut-être 4 fois plus que ce que je mangeais avant. Et quand j'ai commencé à voir que je reprenais du poids, mon cerveau directement, il comprenait pas, le contrôle est revenu, alors que j'avais changé de lycée, parce que ça allait pas du tout, c'était carrément la cause de mes problèmes, et que ça allait mieux, mais que directement quand j'ai vu que ça changeait, mon cerveau il s'est remis en position, en contrôle, et c'est là que les crises de boulimie ont commencé. C'était plus quand je mangeais chez moi, parce que j'avais le regard de mes parents forcément qui me donnait beaucoup plus à manger parce qu'ils avaient peur forcément. Et du coup, en cachette, bien sûr, moi ça s'est direct traduit par des vomissements. Ça arrivait peut-être une fois tous les mois, c'était pas très régulier, mais ça a duré je pense 4-5 mois. Et une fois que j'ai retrouvé après mon poids normal, j'en faisais plus du tout. Enfin, ça a vraiment été une période. Et après, ça a complètement disparu. Mon cerveau, je pense qu'il a vraiment compris. En fait, j'ai eu tellement peur quand je regardais les photos de ce qui m'est arrivé. Ça a vraiment été un traumatisme que mon cerveau, il a dit plus jamais. Plus jamais je fais ce contrôle-là. Et je pense que j'ai beaucoup grandi en ayant ma maladie. J'ai grandi avec ça. Et je pense que ça m'a vraiment forgé un esprit comme quoi... L'autocontrôle, le stress, les remarques des autres, c'est vraiment pas important et qu'il faut vraiment se centrer sur soi-même, notamment pour cette part, parce que les seuls impacts, c'est sur toi. Et aujourd'hui, j'en ai toujours, que ce soit physique ou mentaux, même peut-être à vie, et qu'il faut pas prendre ça à la légère.
Pour ma part, j'avais dit au départ que... J'avais pas fait de crise de boulimie, mais quand je vous entends parler, en fait, je me rends compte que le stade de guérison, il est assez compliqué, parce que j'avais aussi des fois des moments où je mangeais tout et n'importe quoi, mais pas forcément en grosse quantité. Mais par contre, j'avais la culpabilité après de ce que je venais de manger. Donc c'est assez lourd à porter, la culpabilité, de se dire mais pourquoi j'ai mangé ça? Parce que j'avais faim. Et effectivement, la faim, on la ressent plus du tout au bout d'un moment quand on est anorexique. Je mange à midi, je mange ce que j'ai vient de peser alors que j'avais pas forcément faim. Et si je mangeais à midi 5, alors là c'était l'enfer, je suis en retard sur mon repas. Et pareil à 19h le soir. Et si c'était pas tout cadré comme je voulais, ça allait pas. Donc moi la faim, je la ressentais, mais plus du tout. Je savais pas quand j'avais faim, je savais pas quand j'avais pas faim. Donc au moment où j'ai voulu me reprendre un peu en main, les repas étaient un peu compliqués, mais je mangeais correctement. Je voyais que mon poids revenait assez lentement. Mais même encore aujourd'hui, des fois, c'est bête à dire, mais si je vais au restaurant et que je mange beaucoup, le soir, je vais peut-être m'empêcher de manger ou manger très très peu, parce que je sais que j'ai beaucoup mangé le midi, quoi. Mais ça reste mental et j'écoute peut-être toujours pas ma faim, quoi. Mais ouais, les phases de boulimie, je pense pas en avoir eu, mais ouais, le réajustement est compliqué.
Oui, et puis ces phases de culpabilité, en fait, c'est ça que t'évoquais beaucoup. Ouais. Et toutes les trois, d'ailleurs.
La culpabilité, c'est horrible.
La culpabilité de manger, en fait.
Ouais. Et quand j'avais cette phase de culpabilité, je repensais, du coup, quand j'étais au poids le plus bas, je me disais, t'es toujours fatiguée, tu te lèves le matin, tu peux rien faire, t'as les doigts bleus, t'as tout le temps froid alors qu'il fait 40 degrés dehors. C'est pas là où tu veux en revenir, quoi. Mais c'est vrai que du coup, de se faire aider par une aide extérieure, une psychologue ou autre, c'est super intéressant, parce qu'il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte et dont l'entourage ne peut pas se rendre compte non plus.
Ok, et merci beaucoup. Et est-ce que, justement, vous en avez parlé de ces crises de l'anorexie à quelqu'un de proche, un ami, ou alors aussi à un professionnel ou une professionnelle? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'au contraire, ça a pu parfois vous réenfoncer? Ou quelles ont été vos expériences avec ça, quoi?
Je pense qu'avant l'étape de se tourner vers le monde médical ou même vers des gens, c'est bien d'identifier le moment où on se dit « Ok, peut-être que j'ai un problème ». Parce que ce qui est un peu vicieux avec l'anorexie, c'est qu'on peut vivre longtemps avec sans savoir qu'on est malade. Donc surtout dans le cas où on n'est pas forcément hospitalisé, où on ne descend pas très très bas, on peut vraiment avoir l'impression que juste on est dans le contrôle. Bon, à la limite, on est un petit peu maniaque, on fait attention. Et c'est compliqué d'identifier les facteurs qui font « Ok, là, il faut que j'agisse ». Parfois, ça peut être super violent. C'est des personnes qui vont se dire... quand on arrive à des poids très bas, déjà, bon, bah, y a des filles qui n'ont plus leurs règles. C'est généralement des moments où on se dit, bon, bah, peut-être falloir agir. Enfin, moi, je perdais beaucoup mes cheveux, je montais un escalier, je manquais de faire un malaise alors que je faisais du sport. Enfin, c'était assez alertant. Et donc du coup, dans le processus un petit peu de... Ouais.
C'était des choses que tu ignorais, par exemple, quand ça t'arrivait, par exemple, cet exemple des escaliers, ouais. Tu te disais que tu étais fatiguée, que... Comment tu l'interprétais? T'avais vraiment un déni autour de... Ouais.
En fait, c'est terrible, mais dans ma tête, moi, au moment d'anorexie, c'était je prends tout ce qu'il y a à prendre en termes de dépensage, on va dire, de calories. Donc, si jamais je suis fatiguée, si jamais je suis à jeun et que je fais du sport, c'est que je tape vraiment dans mes calories et donc c'est bien. Et donc, je sais que j'étais partie en Grèce avec mes parents au plus bas de mon poids. Et on mangeait pas beaucoup, on marchait beaucoup, il faisait 40 degrés. Et je me disais, mais c'est génial, ça veut dire que je vais vraiment perdre un max de poids et tout. Et c'est vraiment malsain. Et en fait, c'est vraiment de l'ordre du... on sait qu'on se fait du mal, mais pour nous, c'est bien, en fait. Donc, c'est compliqué de faire le... C'est une première prise de conscience qu'il faut avoir, je pense.
Et puis, par rapport à ça, je trouve que après ça prend le dessus aussi, beaucoup, sur tout le reste. Ça veut dire que... Au lieu d'apprécier la balade parce que c'est une belle balade, tu l'apprécies parce que tu as beaucoup transpiré et qu'elle a duré 5 heures et que du coup tu sais que tu as beaucoup dépensé.
Exactement.
Et genre ça prend le. Ça, c'est dans vos. Enfin, j'imagine que du coup c'est dans la tête, c'est la priorité numéro une, quoi. Et on oublie même de profiter de plein d'autres aspects de la vie.
Mais même par rapport au sport, souvent c'est très rare que les personnes qui souffrent de TCA font du sport pour le plaisir, hein, généralement. En fait, ça n'existe quasiment pas. Généralement, tu fais du sport pour, pareil, dépenser des calories. Moi, je faisais du sport que je n'aimais pas. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait me payer pour aller me faire courir sur un tapis de course. Vraiment très, très cher. Mais à l'époque, je le faisais parce que je savais que ça permettait de maigrir, quoi, tout simplement. Et oui, je pense que parler aux proches... Alors, ça dépend à qui. Parfois, c'est compliqué d'en parler à des gens qui... Enfin, parfois à ses amis, c'est toujours un pas, mais c'est important aussi de le faire et d'alerter les gens, ne serait-ce que de ça, parce que parfois, ils peuvent aussi comprendre certaines de tes actions si tu leur expliques. Moi, j'en ai beaucoup parlé. En fait, j'ai commencé à ce moment-là à sortir avec mon copain actuel, qui a été vraiment, je pense, un pilier pour moi et qui m'a permis de me sortir un petit peu de tout ça et qui m'a juste dit... Maintenant, tu vas être heureux, donc on va agir sur des choses. Et moi, c'est un petit peu ce coup de pied aux fesses que j'ai eu qui m'a permis de me dire, bon, je vais aller m'orienter. Parce que du coup, comme moi, j'étais pas hospitalisée, il fallait que je trouve des moyens de trouver des professionnels pour m'encadrer parce que j'arrivais pas toute seule. Et j'ai réussi à trouver donc une infirmière qui était spécialisée dans les TCA, donc sur Compiègne. Donc c'était bien parce que c'était ici. Et j'ai eu son suivi pendant quasiment un an. Donc... une séance par semaine, et c'est hyper frustrant parce qu'au début ça marche pas, donc tu te dis bon, ça fait cher la séance pour que ça fonctionne pas, mais en fait ça fonctionne, ça prend du temps, il faut accepter que ça prenne du temps, et parfois c'est pas quand on prend du poids que c'est fini, parce que parfois on se dit bon, c'est bon, la personne a repris du poids, mais en fait c'est tout dans la tête. Moi, j'ai repris beaucoup de poids, et en fait je me sentais super mal parce que j'avais pris encore plus de poids, et en fait ça c'est au moment donné où je me suis dit, bon, je vais me foutre la paix, en fait, j'ai perdu tout le poids que j'avais repris parce que j'ai arrêté de faire des crises de boulimie. Et aujourd'hui, je suis revenue à mon poids que j'avais au lycée quand je suis arrivée à l'UTC. Donc, comme quoi, c'est vraiment mental, quoi. Donc, c'est important aussi, ça, je pense.
Donc, toi, tu as vraiment eu une expérience plutôt positive qui t'a vraiment permis, alors, t'évoquais ton copain, mais qui t'a permis de sortir un peu de ce truc-là. Et tu penses que ça aurait été possible ou pas sans cette infirmière, pardon, que tu mentionnais?
Je pense que ça aurait été possible, mais plus difficile en fait à mettre en place. Déjà parce que parler à quelqu'un qui est déjà payé pour ça, mais pas que, enfin, qui est neutre, bah déjà ça allège parce que les gens peuvent aider, mais c'est pas eux qui vont vous sortir de ça. Et c'est bien de parler aux gens, mais déjà pour eux c'est très lourd. Hein. Les personnes qui entourent les gens qui ont des TCA, c'est compliqué. C'est vrai qu'on l'évoque pas souvent, mais ça peut être vraiment compliqué parce que c'est des choses qui sont vraiment très contre-intuitives à comprendre, puisque bah manger, s'alimenter, Moi, je faisais souvent l'analogie avec le sevrage. Quand on est alcoolique, on arrête totalement de boire de l'alcool. Quand on est anorexique, on peut pas arrêter de manger, quoi. Donc, c'est compliqué de se sevrer de cette addiction-là. Et c'est un truc que les gens peuvent pas souvent comprendre. Donc, même si moi, j'ai eu que des gens qui ne jugeaient pas et qui essayaient vraiment par curiosité, donc de poser des questions et de comprendre, bah, ça allait pas. C'est important d'avoir, voilà, des cadres. Moi, je trouve que lui parler donc à mon infirmière, c'était un petit peu une heure qui était dédiée à ça dans la semaine. Et au moins, ça allégeait mes proches aussi. Ça me permet aussi de ne pas parler que de ça avec eux. Et c'est important aussi de continuer d'avoir une vie à côté, parce que sinon, on est défini que par ça. Et ce n'est jamais la solution, je pense.
Oui, carrément. Et du coup, Anaïs, toi, tu avais évoqué plutôt une expérience plus nuancée. Donc déjà, avec ton médecin généraliste, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Du coup, avant d'aller à l'hôpital, j'ai été suivie du coup par mon médecin généraliste. Avant tous ces problèmes, je l'ai jamais trop aimé. Et ça s'est confirmé parce qu'il n'était pas du tout au courant, enfin, pas du tout sensibilisé à comment parler, je pense, aux personnes touchées des TCA. Et du coup, même mes parents l'avaient remarqué, que ça m'enfonçait encore plus. Enfin, ils m'incitaient en fait à continuer dans cette optique-là. Du coup, on a carrément changé de médecin. Et quand j'étais à l'hôpital, je dirais pas, ça m'a pas du tout aidée. Enfin, j'y suis restée qu'une semaine, parce que c'était vraiment parce que j'étais à mon point critique. Il fallait vraiment que je remonte pour continuer comment je pensais que ça allait s'améliorer. Mais c'est pas eux qui m'ont aidée. Après, je pense que j'étais pas dans une cellule spécialisée dans les TCA. Du coup, je pense que c'était pour ça, parce que j'habite dans une petite ville. Et il n'y avait pas ce dispositif-là, et mes parents ne voulaient pas que je parte ailleurs. Du coup, je pense que c'était plus dû à ça, à un manque de formation dans ce domaine-là. Mais après, je suis retournée chez moi, et je pense que j'ai fait un énorme travail sur moi-même. Vraiment, j'avais vraiment d'énormes problèmes, je pense, de confiance en moi, du regard des autres, du rapport même avec ma famille. On s'est énormément rapprochés, notamment avec mon père et ma mère et ma sœur. Et on a fait ça ensemble, vraiment. Et je pense qu'on a tout remis en question. Et je pense que c'était vraiment des problèmes que j'avais depuis toute petite, en fait, qu'on ne s'était pas forcément rendu compte. Et c'est comme ça. Sincèrement, je me suis sortie plutôt toute seule. Je n'en ai pas vraiment parlé à d'autres personnes, excepté à ma famille. Parce que déjà, c'était pendant le confinement. Du coup, tous mes liens sociaux, ils étaient un peu coupés. Et après, quand je suis arrivée, du coup, dans mon nouveau lycée, j'ai créé de nouveaux liens, mais... Enfin, je n'ai pas trop parlé parce que je voulais pas que je sois assimilée qu'à ce problème-là. Et du coup, même si je pense qu'ils l'avaient remarqué, que ça se voyait que j'étais très très maigre, mais mes amis n'avaient jamais posé la question ou quelque chose comme ça. Après, un peu plus tard,
j'avais connu que comme ça, donc aussi il y avait un peu un truc de.
On sait pas, ouais. Et après, ma mère m'avait conseillé de voir une psychologue plus pour parler sur l'aspect mental. C'était pas axé sur les TCA, mais juste pour parler à une personne qui n'était pas ma famille. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée, mais elle m'a tirée vers le haut au niveau confiance en moi, continue ce que tu fais, c'est bien, tu vois, t'y arrives. J'arrivais à m'enlever ce contrôle, et c'était une grosse fierté pour moi, parce que ça faisait 6 mois que j'étais carrément au fond du trou, je me reconnaissais pas. Et grâce à cette psychologue, elle m'a redonné confiance en moi et j'ai pu continuer mes efforts et qui ont payé, parce que où j'en suis arrivée aujourd'hui, du coup c'est plus grâce à moi et j'en suis fière aujourd'hui.
Et donc en fait, elle t'a plus aidée dans la continuité de ce que tu avais déjà initié par toi-même.
C'est ça.
Okay. Et toi, Natacha, du coup, au niveau de ta famille, comment ça s'est passé, ou alors peut-être ce prof, je sais pas.
ce prof, du coup, il y a eu le déclic avec sa phrase, donc il a continué à me suivre de loin pour savoir comment ça allait. Mais ça s'est passé du coup à la fin de ma prépa, donc à la fin de la deuxième année. Donc j'ai eu que l'été en gros pour essayer de me remettre un peu en jambes pour pouvoir partir à Compiègne à la rentrée, seule. Et donc, j'en ai pas parlé à ma famille, j'en ai parlé à personne, en fait. Et je pense plus comme Anaïs, où je m'en suis un peu sortie toute seule. Et puis, en plus de ça, bah, je venais de me mettre en couple pendant l'été. Donc, ça m'a beaucoup aidée aussi. Et puis, de toute façon, quand on arrive et qu'on devient indépendante, on a beaucoup d'autres choses à penser que, que de savoir ce qu'on mange.
Et avec cette personne avec qui tu étais en couple, tu lui en as parlé ou...
J'en ai pas parlé au début, mais il était au courant parce que de toute manière, il était en prépa avec moi.
Ah oui.
Et donc, on a fini nos études et tout ça, et on a du coup aménagé ensemble au bout d'un moment donné. Et j'ai décidé de lui en parler plus profondément parce que du coup, en habitant avec quelqu'un, bah forcément, il est spectateur de tout ce qui se passe. Et au final, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce qu'au final, il y a des gens qui ne se rendent pas forcément compte on n'est pas tous pareils, on ne réfléchit pas tous de la même manière. On a des problèmes, des troubles psychologiques qui ne touchent pas forcément tout le monde. Du coup, les gens ne peuvent pas comprendre. Et ça a été plus, pour moi, des moments de rechute que de l'aide. Donc c'est pour ça aussi que du coup, ça s'est terminé. Hein, mais mais j'ai décidé aussi d'arrêter d'en parler forcément, enfin, d'arrêter d'en parler aux gens, parce que pour moi, ça ne m'aidait pas du tout, en fait.
Ouais, ça t'a refroidi, en fait.
Ouais, j'ai pas du tout eu les épaules sur lesquelles je voulais m'appuyer, quoi. Donc, voilà. Et du coup, pendant l'été aussi, avant de venir ici, j'ai été voir une psychologue aussi, parce que je voulais me faire aider par le corps médical. Mais ça ne m'a pas aidée non plus, parce que je pense que je n'étais pas prête. Parce qu'effectivement, le fait d'être prête à faire ces démarches et tout ça, c'est super important, parce que sinon, on peut en parler à n'importe qui, on peut voir n'importe qui, ça ne changera rien. Et j'étais encore fermée un peu, j'étais dans ma carapace, où je voulais pas évoluer, en fait.
Et puis, il faut trouver les bonnes personnes aussi.
Exactement,
être prêt et ne pas avoir le corps médical adapté. C'est tellement, c'est très subjectif, très personnel, donc ça peut...
Exactement, oui. Et du coup, comme Anaïs, j'ai essayé de travailler un petit peu toute seule sur moi, plus sur la confiance en moi que sur le reste, parce que tout est lié après. Et au final, ça a bien fonctionné. Et puis même le fait de terminer les études et de rentrer dans le monde professionnel, ça change aussi énormément les choses. Et on n'est pas confronté aux mêmes personnes. Et puis après, tout se découle. Une fois qu'on a compris que le problème, il n'était pas forcément que lié à la nourriture, mais plus à comment on se voit nous... Je ne vais pas dire que c'est plus simple, mais ça donne déjà une piste en plus pour s'en sortir, quoi.
Et est-ce que quand vous avez fait appel, donc chacune de vous, à quelqu'un du corps médical, vous avez trouvé de l'aide, cette aide facilement? Qu'elle était positive ou négative, est-ce que vous l'avez trouvée facilement? Ou est-ce que c'était compliqué de trouver la bonne personne vers qui se tourner?
Vas-y. Du coup, pour ma part, j'avais contacté du coup, des personnes spécialisées, mais j'ai eu des réponses, je crois... un an et demi après, pour être intégrée à cette cellule. Du coup, quand j'ai reçu la réponse, c'était même en mode « Ah, mais j'avais demandé ça, je m'en souvenais même plus. » Et du coup, cette petite collègue n'était pas du tout spécialisée, je crois, dans le comportement des adolescentes, mais c'était pas du tout spécialisée dans les TCA. Du coup, oui, je l'ai trouvée plutôt facilement.
Moi, en fait, je m'étais beaucoup renseignée sur l'alimentation intuitive. J'avais regardé, en fait, sur Insta, des trucs sur ça, et en fait, complètement par hasard, j'avais trouvé l'infirmière qui m'a suivie, qui était donc spécialisée en TCA, alimentation intuitive, et qui était à Compiègne. Je me suis dit, bon, là, c'est l'alignement des astres, je vais la DM, quoi. Et du coup...
Est-ce que tu veux peut-être expliquer, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est l'alimentation intuitive?
Ouais, alors l'alimentation intuitive, alors je veux pas dire que c'est une méthode, parce que c'est pas vraiment une méthode, c'est simplement essayer de manger donc selon ses intuitions, et ça j'entends selon vraiment selon ses pures envies et ses besoins. Souvent on dit qu'on va manger en fait comme un enfant à qui on n'a pas donc de socialisation, enfin à qui on n'a rien dit, pas de remarques ou quoi, et qui sait quand s'arrêter et qui sait quand est-ce qu'il va faire une différence entre la gourmandise, entre les envies. Et en fait, ça met en place plein de vocabulaire comme les notions de rassasiement. Et en fait, ça apprend simplement à réapprendre à manger. Parce qu'en fait, moi, quand je mange, j'ai commencé à être suivie finalement après avoir regrossi. Donc, j'avais plus besoin qu'on me fasse manger, mais j'avais besoin de réapprendre à m'alimenter parce que je ne savais plus faire, en fait. Soit je me privais, soit je mangeais trop. Donc, c'était un peu invivable. Et du coup, le but de l'alimentation intuitive, c'est ouais, de remettre un petit peu ces indicateurs de « Ah, bah là, je suis en train de manger, je prends vraiment conscience du fait que je suis en train de manger, j'écoute mes sens, là, j'ai plus faim, donc je m'arrête. » Ou alors, peut-être, j'ai plus envie de manger ça, mais j'ai envie de manger quelque chose d'autre. Et ça, en fait, ça fait appel à plein de domaines différents pour opérer un petit peu ces émotions alimentaires. Et du coup, ça m'avait beaucoup intéressée. J'avais pas mal lu sur ça. Et donc, j'avais trouvé cette fille-là. Et donc, du coup, je l'avais contactée ensuite. Et on avait commencé un peu le suivi comme ça. Du coup, vive Instagram parfois.
Moi, ça a été plutôt simple de trouver quelqu'un aussi. Mais bon, c'était pas adapté pour moi. Donc je sais pas trop comment juger la situation. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est assez compliqué de trouver quelqu'un d'adapté.
Du coup, moi, j'avais une remarque parce que tout à l'heure, il a semblé qu'il y avait un point un peu commun à toutes les trois. C'était que, il y a encore un impact maintenant dans le présent, même après, parfois des années après. Est-ce que vous voulez nous en dire plus de cette relation, du coup,
qui reste avec la relation avec la nourriture et avec votre corps aussi maintenant. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous interdisez des choses ou comme t'en parlais un petit peu, mais on va y revenir. Du coup, voilà, si vous avez des remarques sur plus actuelles, en fait.
Bah, ouais, pour ma part, actuellement, en fait, c'est vraiment par phase, parce que quand tout va bien dans ma vie, tout va bien dans l'assiette. Mais quand il y a des moments de stress ou de mou à l'hiver ou j'en sais rien, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai mes anciens démons qui reviennent. Et ça m'arrive de m'interdire de sortir manger à l'extérieur avec mes amis parce que je me dis non, t'as pas envie, alors que je pense que j'ai envie, mais il y a toujours des réflexions un peu borderline, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui finalement je perds plus de poids, hein, j'ai repris mon poids normal et tout, et j'ai aussi cette tendance à me peser un peu trop encore, mais même si ça influe pas sur ma journée, j'ai besoin le matin quand je me lève de regarder mon poids, quoi.
Le secret, c'est de jeter sa balance. Oui. C'est vite réglé.
Je pense qu'il faut que je passe cette étape-là. Ouais. Mais du coup, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas du tout comme pendant ma période anorexique, parce que ça influe pas ma journée.
Sur ton comportement.
Ouais, ça influe pas mon comportement, mais c'est quand même ce détail qui m'importe au lever, quoi. Mais c'est vraiment par phase, hein, parce que des fois, je peux ne pas toucher la balance pendant 3 mois. Et puis des fois, ça va, pendant un mois, je vais me peser tous les jours, quoi.
Et du coup, souvent avec les fêtes, est-ce qu'il n'y a pas
des moments de stress?
Des moments un peu, ouais, où on se dit... avec l'enchaînement, on connaît bien des grands repas, le 24, le 25, le 31. C'est une période qui revient tous les ans. Est-ce que toi, c'est une période que tu appréhendes pareil tous les ans? Ou c'est vraiment...
Non, je l'appréhende pas du tout de la même manière qu'avant, mais non, il n'y avait pas de période particulière, hein, parce que même, même là, pendant l'hiver, les raclettes, tout ça, je les appréhende pas du tout, mais je sais qu'il y a un moment où je vais être très stressée, je pense que c'est vraiment ce besoin de contrôle qui fait que, du coup, il faut que je contrôle quelque chose, et la seule chose qu'on peut contrôler toute la journée, c'est la nourriture, quoi.
Ouais, donc en fait, c'est vraiment lié à ton quotidien, ouais. Pas forcément des périodes de l'année, mais non. Vraiment ton quotidien, au jour le jour.
Ouais. Okay. Mais oui, après, il y a quand même il y a quand même de l'évolution, parce que même au niveau comportement, je vois que j'ai changé. Enfin, comme je disais au tout début, pendant la phase anorexique, j'ai l'impression que j'étais associée au diable, hein, c'est-à-dire que fallait pas me faire de remarques, j'étais énervée tout le temps, tout ça. Ça m'arrive plus du tout. Hein, c'est parti. Donc, mais ouais, le petit côté contrôle, il est toujours là.
Ouais, moi je pense qu'on guérit vraiment, donc ça c'est pour donner un petit peu d'espoir aux personnes qui sont dedans, mais ça suit toujours, du moins ça marque en fait. Moi je sais que, donc par rapport un petit peu aux appréhensions, moi c'est vrai que c'est par rapport un petit peu, oui, donc s'il va y avoir des semaines de vacances, je vais me dire bon bah là je vais avoir un enchaînement de resto, nanani, c'est compliqué parce que je suis encore sur ma phase de bah... En fait, j'ai du mal à comprendre qu'on peut manger vraiment n'importe où, dehors, dedans, du moment qu'on respecte un petit peu cette histoire de rassasiement. Enfin, moi, je cultivais vraiment beaucoup, et je cultive toujours, je pense, la peur de grossir, parce qu'en plus, j'ai donc maigri pendant l'anorexie, grossi pendant ma guérison, et ensuite, je suis revenue à mon poids de base d'avant. Et c'est compliqué de se dire, moi, pour l'instant, je ne peux pas dire que j'accepterais de reprendre du poids encore, parce que là, j'estime que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis stabilisée, donc je pense que c'est mon poids de forme. Donc voilà. Après, c'est pas... c'est plus du tout quelque chose que je porte maintenant. Enfin, quand on a été anorexique, enfin, je fais des choses, enfin, je mange vraiment ce que je veux globalement et je m'en fiche. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de stress. Moi, les fêtes, tout le temps, ça me fait un peu du stress. Voilà, les vacances. Ou alors, si dans la semaine, on me propose trop de restos à la suite, je vais me dire, wow, ça va être compliqué. Mais moi, j'essaie de me forcer à le faire. Après le rapport à la balance, alors moi j'ai toujours eu un rapport à la balance compliqué, je me suis toujours beaucoup pesée, j'ai totalement arrêté de me peser pendant ma guérison, puis après j'ai un peu recommencé, donc c'était un peu, je m'étais dit bon bah j'essaie de me peser un peu raisonnablement, donc une fois tous les mois pour savoir si je reprends pas ou pas, mais en fait on se pèse jamais raisonnablement quand on a pris l'habitude de se poser tous les jours, donc ça c'est toujours compliqué, donc moi aussi c'est un petit peu par phase. Ça influe pas non plus ma journée ou ma façon de manger ensuite la journée on va dire, mais j'aime bien, en fait je pense que vraiment, je cultive la peur de me dire « Bon, bah, je vais pas me peser pendant 3 mois, je vais me peser et puis je vais me rendre compte que j'ai pris 1000 kilos. » Alors qu'au pire, si j'ai pris 1000 kilos, je le verrai parce que je n'entrerai plus dans mon jean, quoi, donc on s'en fout. Mais voilà. Mais ça, de toute façon, c'est que des visions de corps. Enfin, je sais que moi, il y a vraiment des semaines, voire des mois où je vais me dire « Je vais me sentir vraiment bien. » voilà. Et ça va être très cool. Il y a des moments où il y a vraiment de la dysmorphophobie un petit peu, où on va un petit peu juste casser son image vraiment de son corps, et là c'est compliqué à gérer parce qu'il faut vraiment se forcer à aller outre en fait. Et ça, moi ce qui m'a aidé, c'est un peu l'arrêt du Covid et la reprise de la vie active et tout. On a moins le temps de se regarder, on a moins le temps de se poser des questions, et mine de rien ça aide beaucoup d'être pris. Moi je me suis blindé mon emploi du temps là depuis un an tout le temps, comme ça je me dis bah de toute façon je me croise pas beaucoup, donc j'ai envie de dire voilà. Mais c'est des choses qu'il faut être vigilant. Mais ça permet aussi de reconnaître certains indicateurs chez les gens aussi, parfois. On voit un peu les red flags de TCA beaucoup plus quand on en a eu. Donc, ouais.
Ouais bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Il faut rester tout le temps vigilant parce que, même si on se considère guéri, une petite remarque, ouais, l'enchaînement des restos, directement, ça nous refait penser à ce qu'on a vécu. Après, moi, de mon point de vue, je pense que j'ai tellement vécu, j'ai tellement souffert de cette période-là que dès que je enfin mon cerveau bien sûr il me dit ah bah là attention tu vas trop manger ou il y a tout de suite le contrôle qui revient, ma raison elle me dit non, ce que tu as vécu, tout de suite ça me rappelle à ce que j'ai vécu, les images que j'ai, et du coup directement je reprends ma raison normale entre guillemets. Du coup j'ai pas eu de rechute depuis 2 ans par rapport aux fêtes ou aux périodes, j'ai plus ces pensées-là, en tout cas. J'ai l'impression que c'est plus ma personnalité. C'était vraiment une période de ma vie que j'ai, entre guillemets, coupée, que je suis partie sur de nouvelles bases. Et à la maison, on n'avait plus de balance, parce que ma mère, elle s'était dit « Ouais, plus jamais !» Et du coup, là, à Compiègne, j'en ai pas non plus. Et je considère plus ça comme un facteur déterminant dans ma vie.
Bravo.
Ok, peut-être avant un peu de conclure, on voulait vous demander en fait pourquoi vous aviez décidé de nous livrer vos témoignages. Si vous avez des messages à faire passer, par exemple, moi c'était une idée aussi que j'avais eue par rapport aux remarques. C'est vrai qu'on fait aux gens qui parfois peuvent paraître anodines mais qui le sont peut-être pas tant que ça. Voilà, des conseils à d'autres étudiants, peut-être à des gens qui sont actuellement atteints et atteintes de troubles du comportement alimentaire. Voilà. Dites-nous.
Alors, c'était quoi la première question ? C'était pour témoigner.
Oui, c'était un peu général. Ouais. Pourquoi vous étiez là et
Moi, c'est parce que je pense que quand j'étais en plein dedans, vraiment au moment où j'étais le plus mal, et je me sentis vraiment super seule, parce que c'est un trouble qui isole énormément. Et en fait, si on ne désire pas s'en sortir tout seul et si on n'a pas la force de le faire, c'est vraiment compliqué à gérer et à sortir de cet isolement. Donc je pense que j'aurais vraiment trop aimé entendre des témoignages de gens qui s'en sont sortis en fait, après, et qui ont réussi un petit peu à retrouver de l'équilibre dans leur alimentation, surtout des personnes qui nous ressemblent, donc à l'UTC, des gens qu'on peut croiser parfois. Donc ouais, j'aurais aimé entendre ça, et aussi parce que je pense qu'il faut vraiment garder espoir que ça fonctionne. Moi, mon seul conseil à donner, c'est que vraiment la vie... c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la vie, vraiment, c'est précieux et c'est vraiment court pour se prendre la tête sur vraiment des histoires de taille, de jeans ou alors de trucs comme ça physiques. Ça n'a vraiment aucune importance et il y a plein de gens bien qui s'en fichent. Bon, il y a des gens pas bienveillants qui s'en foutent pas et qui vous feront peut-être des remarques, mais la vérité, c'est qu'il y a plein de gens super cool qui s'en fichent totalement de si tu fais du 36 ou du 44, quoi. Donc ça n'a aucune importance. Et que vaut mieux manger des croissants et des burgers et être heureux en bonne santé que de passer par des phases qu'on, je pense, qu'on a toutes connues, où vraiment il n'y a plus de bonheur ni de plaisir dans l'assiette, ni dans la vie tout court, en fait. Donc voilà. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié, mais ça me reviendra peut-être.
Moi aussi, je suis venue tout manier parce que je pense que quand on est dans cette phase-là, on n'ose pas en parler, on s'enferme vraiment. Et avoir des témoignages ou même rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose que nous, qui s'en sont sorties, c'est un message vraiment... Je pense que ça peut vraiment faire déjà prendre conscience aux personnes qui sont atteintes de ça, qu'il faut agir, qu'il ne faut pas se laisser dans cette situation-là, que oui, on a de l'espoir, oui, ça va durer peut-être longtemps, on va avoir des phases de rechute, mais au final, on s'en sort. Et ça mérite vraiment le coup de s'y plonger dedans. Et d'aller demander de l'aide si on a besoin, ou enfin, faire ce qu'il faut en gros pour guérir. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde pense que c'est pas anodin, qu'il faut vraiment, je pense que tout le monde en parle, il faut que ça soit plus connu par le corps médical, par toutes les personnes, parce que quand on dit qu'on a été atteinte d'anorexie, les gens, ils associent ça juste à « Ah bah, t'as voulu faire un régime qui a un peu mal tourné. » Alors que pas du tout. C'est vraiment centré, comme on l'a dit, sur la confiance en soi, sur les paroles des autres. Et je pense qu'il faut vraiment une prise de conscience sur cette maladie qui peut être vraiment très très grave. Parce que j'ai vu des chiffres comme quoi c'est une des premières causes de mortalité chez les jeunes. Et je pense que c'est pas assez médiatisé et même connu, ouais.
Oui, moi j'ai voulu témoigner aussi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me manquait un peu, moi, c'était le fait de connaître déjà la maladie. Parce que quand on est dedans, on a ce voile devant les yeux où on se dit tout va bien. Et au final, je pense que si j'avais entendu des choses à ce sujet-là, après je me suis peut-être pas assez renseignée, hein, mais si j'avais entendu plus de choses et de témoignages à ce sujet-là, je m'en serais peut-être rendu compte plus tôt.
Ça aurait peut-être fait écho, quoi.
Oui, parce que oui, on s'en rend vraiment pas compte. Hein. Et aussi pour dire qu'on peut s'en sortir, peu importe le poids, peu importe le moment depuis quand ça dure, peu importe le type de TCA qu'on a d'ailleurs. Hein. Et c'est super important d'en parler à des gens bienveillants et de se faire aider par des gens bienveillants aussi. Et voilà, c'est vrai que la plupart des gens, ils connaissent pas forcément ce type de trouble. Pour eux, c'est associé effectivement, on perd du poids, c'est un régime qui a mal tourné, comme a dit Anaïs. Mais il y a tellement de choses sous-jacentes qu'on ne s'en rend pas compte et c'est super important. Et enfin, moi, le plus important, parce que comme je dis depuis le début, c'est lié à la confiance en soi et essentiellement à ça. C'est très important d'apprendre à s'aimer et puis peu importe qui on est, peu importe comment on est, à quoi on ressemble physiquement, c'est super important d'avoir confiance en soi et puis d'apprendre à s'aimer, quoi.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou aborder Est-ce qu'il y a un petit message à faire passer qui me tient à cœur?
Je viens de me rappeler de ce que je voulais dire juste à la fin. C'était que pour les gens qui ne souffrent pas de TCA, mais qui vivent leur vie tranquille comme tout le monde, c'est hyper important de faire attention aux remarques qu'on fait aux gens et même de ce qu'on pense, les remarques qu'on se fait à nous. Au même titre, on ne dit pas à quelqu'un qu'il a grossi, mais on ne dit pas non plus à quelqu'un qu'il a minci, parce que ça associe souvent le fait de maigrir à une victoire, quelque chose de positif, et le fait de grossir à un échec, alors que pas du tout, on ne sait pas. Donc voilà, essayer de vraiment être bienveillant, tolérant, et de réfléchir un petit peu aux impacts de ça. Et même moi, je le dis comme ça, mais je pense que même par rapport à soi, je pense qu'on vit dans un monde où on est un peu exposé tout le temps à des modèles qui sont complètement irréels, de corps, d'ambition et tout. Et parfois, c'est juste bien de se dire, de se calmer un petit peu et d'être tendre avec soi-même et d'être tendre avec les autres pour limiter au maximum ce genre de troubles et ce genre de problèmes.
Ouais. Ouais, parce que je pense que le physique est vraiment mis comme une cause, vraiment, enfin quelque chose à atteindre dans la vie, un but à atteindre, alors que pas du tout. Quand on se concentre que sur celui-là, qui est absolument pas nécessaire, enfin, je pense qu'on passe à côté de plein de choses autres qui sont bien plus intéressantes et bien plus enrichissantes à effectuer dans sa vie. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à et même enseigner, éduquer à passer outre ce cadre physique qui est vraiment non nécessaire. Je pense que on peut vraiment apprendre à évoluer dans les sociétés.
Et puis faire très attention aux réseaux sociaux, effectivement, parce que les modèles de beauté ne sont pas du tout les modèles réels, hein, dans la vie réelle. Et aussi faire attention à ce qu'on peut trouver sur les réseaux ou sur Internet par rapport aux techniques de comment maigrir. Ouais. Parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi. Et c'est... Enfin, moi, je me revois boire un litre d'eau dès que je me réveille. Ouais. Enfin, c'est...
Changez vos algorithmes Instagram.
C'est ça, exactement.
Ça marche très bien.
Et puis, il faut savoir qu'on est tous beaux, on est tous belles, peu importe le physique. C'est le mot le plus important pour moi. Il faut s'aimer comme on est.
C'est un beau message de fin.
Je pense aussi. Eh ben, je pense qu'on va vous remercier toutes les trois pour être venues ici témoigner, nous apporter votre expérience, voilà, et vos beaux mots. On remercie aussi les auditeurs et Graphite pour l'accueil dans ces locaux, parce que ça nous permet quand même d'avoir des micros d'une qualité un peu supérieure à un téléphone. Je vais finir avec un rappel des dispositifs qui sont en place à l'UTC. Donc évidemment, vous pouvez venir nous voir les ERS à tout moment, si vous avez envie d'aborder ce genre de sujet ou autre d'ailleurs. Il y a également une psychologue à l'UTC qui est disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse mail medecine-preventive@utc.fr. Il y a donc l'ensemble de la médecine préventive donc, qui est constituée par la docteure et l'infirmière de l'UTC. Et puis voilà, on vous encourage évidemment à venir en parler si vous en souffrez ou à en parler à une connaissance si vous préférez, bien évidemment. Et je crois qu'il y a un contact qui a été noté aussi, je vois, de Anne-Sophie Dumortier. Donc dumortier.as@gmail.com, qui est une psy spécialisée dans les TCA et le rapport au corps, qui est basée sur Compiègne, donc qui peut aussi être contactée. Voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Et puis merci à tous pour nous avoir écoutés.